Comment introduire une émission sur l'intelligence artificielle?
Je vous ai préparé un générique pour lancer votre émission. Bienvenue dans la nuit de l'IA, l'émission qui explore les mystères et les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger au cœur de la révolution technologique où les machines défient les limites de l'imagination humaine. BFM Business présente la nuit de l'IA avec François Sorel.
Voilà, l'intelligence artificielle et notamment générative qui est vertigineuse et qui, vous le voyez depuis le début de cette émission, est en train de bouleverser énormément de secteurs. On va s'intéresser dans quelques minutes à l'encadrement de l'IA. Faut-il encadrer, faut-il réguler l'IA? On en parlera avec une spécialiste, Laurence Devillers, qui est professeure d'informatique à Paris-Sorbonne et chercheure au CNRS. Mais pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle au bureau. Comment l'IA générative est en train de bouleverser notre quotidien au travail? On en parle avec Frédéric Simotel, notre spécialiste qui, lui, vous le savez, utilise ChatGPT au quotidien, la rédaction de BFM Business. Salut Fred, merci d'être là.
Bonjour à tous.
Tu sais qu'on a posé la question à BFM IA te concernant.
Ah mais elle me connaît un peu, je crois.
Et elle t'adore, on l'écoute.
Frédéric Simotel est un journaliste renommé spécialisé dans les technologies et l'innovation à BFM Business. Avec une solide expérience en journalisme tech, il apporte une vision éclairée et souvent avant-gardiste sur les enjeux du numérique et de l'IA. Frédéric, prépare-toi. On va parler d'intelligence artificielle générative au bureau. Alors j'espère que tu as ton robot assistant pour t'aider à répondre aux questions difficiles.
Tu vois, donc tu vas avoir des questions difficiles.
Ouais, elle a oublié de dire jeune journaliste.
Oui, jeune journaliste.
Mais sinon...
Et ton assistant robotique, c'est ton téléphone en fait.
Parce c'est mon téléphone.
On n'en a pas beaucoup parlé durant toute cette soirée, mais c'est vrai que le mobile est vraiment la porte d'entrée de tout ça en fait.
Hein. Exactement. Non, et puis avec la voix, c'est en train de changer beaucoup de choses, mais enfin on va le voir avec nos invités.
Nos invités qu'on vous présente dans un instant, mais pour vous plonger un petit peu dans l'ambiance, on va parler d'EasyJet, Fred. Mm-hmm. Première compagnie aérienne en Europe en termes de réseau, qui ouvre son tout nouveau centre de contrôle intégré des opérations à Luton, c'est près de Londres, Luton. Et au cœur du dispositif, l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans les pratiques quotidiennes. Alexandra Praget nous a réalisé ce petit reportage passionnant et on revient juste après.
250 spécialistes gèrent ici la flotte EasyJet, plus de 340 avions dans 35 pays, 100 lignes, 155 aéroports 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors l'intelligence artificielle leur vient en aide pour faire décoller les vols à l'heure, identifier et affecter les personnels navigants en fonction des besoins opérationnels et répondre aux besoins des passagers avant même quasiment qu'ils ne les aient exprimés. Jill Baudot à la tête du contrôle du réseau EasyJet.
Nous déplaçons les avions et les équipages manuellement. Nous travaillons sur un outil qui nous aidera à le faire de manière plus automatisée. Il nous donnera la meilleure future option pour gérer la perturbation ou deux ou trois options différentes.
Cet outil développé par la compagnie donne instantanément accès à une mine d'informations jamais vue auparavant pour gérer une situation elle aussi assez exceptionnelle puisque cet été sera le plus chargé depuis la crise Covid.
Au cours des prochains mois, nous volerons dans près de 2000 secteurs et transporterons 300 000 passagers par jour. Nous savons qu'il y aura des retards dans le contrôle du trafic aérien et nous savons que ces retards s'aggravent progressivement d'année en année. Nous devons donc gérer cela et que ce ne soit pas une surprise.
Les qualités prédictives de l'IA permettent aux compagnies de rationaliser leur activité en anticipant par exemple le moment où les pièces d'un avion doivent être changées ou en réaffectant des sièges là où la demande est la plus forte, ce qui permet aussi au passage de baisser encore les prix des billets.
Voilà un exemple concret, les compagnies aériennes, hein, Fred.
Oui.
Ils sont, elles aussi en train de vivre ce bouleversement de l'intelligence artificielle générative. Je te propose tout de suite d'accueillir nos invités pour évoquer l'IA au bureau. J'accueille sur ce plateau Rémi Trinto, le directeur général de ServiceNow en France, et Frédéric Ross, qui est directeur monde des services digitaux pour l'environnement de travail chez Amadeus. Frédéric Simotel, je te laisse la parole. Toi qui présentes tous les week-ends Tech & Co Business.
Voilà, et bien on a vu dans le monde de l'entreprise, c'est vrai, on a beaucoup parlé dans le monde de la santé, divertissement, mais dans le monde de l'entreprise, c'est une grande transformation aussi. L'IA générative, ça a redonné en clair un coup de boost au chatbot. Alors Rémi, je me tourne vers vous, Rémi Trinto.
Merci
d'être avec nous.
Merci de nous accueillir.
Alors vous, racontez-nous un peu ce que ça change aujourd'hui pour une plateforme comme ServiceNow et justement l'intégration de cette IA générative.
Alors, je vais peut-être commencer par décrire très rapidement ServiceNow. Donc, ServiceNow, c'est une société de la tech qui a été créée il y a une petite vingtaine d'années aux États-Unis, en Californie. L'objectif, c'était vraiment notre terrain jeu, c'est vraiment travailler sur les processus d'une entreprise. De même que les processus d'un organisme du secteur public. Donc, processus RH, processus finance, processus de supply chain. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'apporter de la compétitivité. Et pour ça, on va travailler sur la productivité, l'automatisation, l'efficacité opérationnelle et l'expérience des utilisateurs. Donc forcément, quand on parle d'IA, oui, et on l'a intégré il y a à peu près 7 ans chez ServiceNow, ça vient décupler finalement tout ce dont je viens de parler, l'automatisation, la productivité et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on arrive à des gains opérationnels pour une entreprise qui sont assez spectaculaires.
Et vous aidez aussi les entreprises à créer leur propre chatbot là aujourd'hui, c'est un peu ça?
Alors, on travaille avec les entreprises sur des assistants, ServiceNow, Commercialist, Now Assist. Donc, on va dire que c'est le copilote de Microsoft qui permet vraiment de piloter. On verra tout à l'heure dans la suite de l'émission, piloter à travers des écrits, piloter à la voix, piloter vraiment les demandes des utilisateurs. Je suis un collaborateur, j'ai besoin d'un service sur ma fiche de paye, par exemple. Mon problème, c'est de pas savoir comment fonctionne mon organisation. Je veux une réponse à un problème donné. Et c'est vraiment avec cet échange qu'on va réussir, et avec la plateforme de ServiceNow, qu'on va réussir à apporter très facilement et très rapidement, et avec une expérience assez incroyable, ces réponses le plus facilement possible.
Alors justement, Frédéric Roche, chez Amadeus, on la connaît, c'est cette plateforme de réservation de voyage. Vous êtes dans tout auprès de... Dès qu'on réserve un voyage, on passe par vous, forcément.
Sans vous, on est mal barré, je pense. Pour partir en vacances, surtout que l'été arrive,
et alors,
il faut vous chouchouter.
Vous avez mis en place notamment Copilot, donc c'est la version, c'est l'assistant de Microsoft Office 365. Alors ça marche pour les développeurs, mais ça marche aussi pour tous les collaborateurs que nous sommes. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé chez vous, comment l'adoption s'est effectuée.
Ça s'est passé assez vite en fait. Il y a eu un engouement très très rapide dans la phase d'essai qui nous a poussé à déployer ça à plus de monde. Donc on a accompagné les personnes, mais l'adoption a été assez rapide. On a une très très bonne adoption. On a de plus en plus de gens qui l'utilisent de plus en plus. Mm-hmm. Et en fait, c'est la clé, c'est d'arriver à trouver le moment où on oublie les anciennes habitudes. Je ne vais pas chercher dans ma mailbox une information, je vais directement...
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces mails? Voilà, donnez-nous un exemple.
Le résumé, on a tous des mails où on a des réponses et des réponses. Soit on lit les dizaines de mails qu'il y a, soit on clique un bouton, on a un résumé qui, en plus, qui est vraiment dans l'ordre chronologique des choses. Ça peut être une des fonctionnalités les plus appréciées, c'est pendant les meetings, c'est le résumé du meeting avec ce qui s'est dit, mais aussi les actions à prendre. Pourquoi les gens aiment ça? Parce que ils n'ont pas besoin de prendre des notes et ils sont en train de se focaliser sur le meeting.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des biais parfois que vous commencez à voir dans les réunions? On en parle un peu sur les réunions Teams où on se dit, tiens, l'IA interprète un peu certains propos des uns et des autres. Il faut apprendre quand même à dompter ces outils, à travailler avec ces outils.
Alors, il faut être clair que c'est une aide, c'est pas une vérité. Une personne peut prendre des notes dans un meeting et se tromper, mal comprendre, mal interpréter. Une IA peut faire pareil. Donc, l'idée, c'est de toujours rester maître de la situation. C'est une aide, ça nous permet d'aller plus vite, ce n'est pas la vérité. Et elle peut se tromper comme un humain peut se tromper.
J'avais juste une petite question, parce qu'on parle de voix, finalement, un peu. Et la voix est une interface totalement naturelle, qui est aussi complètement bouleversée par l'intelligence artificielle générative. Est-ce que la voix va prendre de l'importance, à votre avis, au bureau?
Alors, en tout cas, c'est une tendance que l'on voit au niveau des consommateurs et des particuliers. C'est vrai qu'on a tous peut-être des adolescents à la maison. Ils utilisent leur device, leur téléphone pour converser avec nous d'ailleurs.
Les WhatsApp audio, les messages audio.
Ouais. Donc cette tendance est en train d'arriver. Nous, ce qu'on observe, il y en a des cas d'usage, notamment à travers la GenAI de ServiceNow sur Now Assist, qui sont assez intéressants. Moi, je suis un ancien ingénieur, donc en fait, j'ai développé beaucoup de code. Mm-hmm. Et aujourd'hui, à travers ces usages-là et GenAI, en fait, le développeur va parler à son interface, parler à son assistant virtuel pour lui demander de développer des processus ou du codage. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet aussi d'ouvrir le spectre, finalement, de développement à des personnes qui n'ont pas forcément toutes les capacités ou une réelle formation au niveau du développement. On sait qu'on a une pénurie d'emplois, notamment sur les métiers de la tech. Ça peut aussi nous permettre de combler cet écart et ce gap.
Au niveau des usages, comment on priorise? Parce que là, on a plein d'idées, on a tous plein d'idées le matin quand on arrive au bureau. Comment on va faire aujourd'hui pour dire, tiens, je vais plutôt... Alors, avec Copilot, c'est du quotidien dans sa bureautique, mais voilà, sur nos métiers de journaliste, dans la recherche documentaire, dans la relecture, la réécriture de papier, voilà, là, c'est du métier. Comment ça se passe pour prioriser tous ces cas d'usage?
Alors ça, c'est une des discussions qu'on a le plus avec nos clients, quelles que soient les industries, et d'ailleurs, les organismes du secteur public également. ils arrivent avec énormément de projets. On voit aujourd'hui des POC se dérouler dans à peu près toutes les organisations métiers d'une entreprise. Je parlais de la RH tout à l'heure, de la finance, bien sûr, de l'IT. Donc il y a vraiment cet afflux d'envie, d'intention d'essayer les POC. Nous, on est là aussi pour avoir des discussions, en tout cas par rapport à la plateforme ServiceNow. Qu'est-ce qui va leur permettre d'avoir le plus d'impact dans leur business à court terme? Au final, ce que cherchent les clients, c'est vraiment de la création de valeur. Donc nous, on va vraiment mener des études, mener des travaux avec eux, qualifier aussi leur niveau de maturité par rapport à ces cas d'usage pour les aiguiller plutôt sur ce qui crée vraiment cette valeur. Donc il y a énormément d'ailleurs de gouvernance qui se crée dans les organisations. Mmh. Donc il y a des sélections qui sont faites, il y a des tris pour savoir tiens ça va nous apporter. Au niveau de des relations humaines, ou au niveau de la finance,
et on va voir ce que ça peut apporter en ROI. Chez vous, Frédéric Roche, chez Amadeus, l'IA a eu un impact justement sur les services RH notamment. Vous avez quelques exemples peut-être?
On a de plus en plus de services qui l'utilisent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi essayé de faire d'aller par métier et de commencer à regarder comment on pouvait adapter les processus ou la façon de faire. On l'a fait avec la communication, par exemple, où on a une équipe communication qui a revu un peu ses processus et sa façon de travailler en fonction de l'IA, en disant ces parties-là, je peux le déléguer, ces parties-là, je peux en déléguer 20%, ces parties-là, ça doit rester de notre fait. Côté ressources humaines, on commence aussi à avoir une évolution de ce côté-là, notamment sur de la description d'un poste, sur des choses un peu plus, même de la simulation, on commence à jouer un peu sur de la simulation. Mm-hmm. En tant que manager, on doit s'entraîner aussi à avoir des fois des discussions un peu compliquées. C'est peut-être plus simple de le faire avec une IA. On est plus en confort et ça nous permet d'apprendre si on a quelqu'un avec nous aussi.
Pour vous, très rapidement, il faut combien de temps pour vraiment se dire que l'IA, c'est un assistant et pas quelqu'un qui va nous remplacer?
Je pense que c'est
l'assimilation de tout ça.
Je pense que ça part vraiment du départ. C'est-à-dire si le message clé, et c'est le message qu'on donne, on vous donne quelque chose pour essayer d'enlever les tâches qui sont les moins, là où vous apportez le moins de valeur. Si on part directement dans la communication comme ça, on y gagne. Derrière, je pense qu'il faut l'utiliser de suite et fréquemment pour pouvoir justement s'apercevoir que ça va pas tout faire. Ça va pas vous remplacer, ça va vous aider et il faut garder un œil parce que ça peut se tromper.
Dernier mot, Rémi, on va avoir dans un instant Laurence de Villers qui va venir ici nous parler de réglementation, de normes d'éthique et tout ça. L'IA Act, vous le voyez comment, vous, en tant que vous êtes dans cet écosystème IA, fournisseur, mais vous avez vos clients. Comment vous le percevez?
D'abord, c'est une réalité. C'est une réalité qui est en train de se déployer au niveau de l'Europe. Donc, on a énormément de discussions avec les régulateurs, avec nos clients, qui se demandent, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit en faire? Moi, je pense que comme RGPD a été quelque part une opportunité finalement d'innovation et de création de valeur, et non pas une contrainte, même si au départ c'était vu comme une contrainte, il faut que l'AI Act en fait nous aide à cadrer des risques qui peuvent intervenir. On a des risques de discrimination technologique, on a des risques sociaux, on a des risques liés à l'hyperconsommation finalement des GPU et de ces technologies. Donc tout ça, ça doit être cadré. L'AI, je trouve, doit aller jusque dans l'entreprise à travers des gouvernances assez pointues pour accompagner ce mouvement. Donc moi, je le vois comme quelque chose de positif. Le risque qu'il faut garder en tête, c'est d'éviter que ce soit une contrainte pour les startups et pour l'écosystème et la filière numérique.
Que ce soit un frein à l'innovation.
En France, faut pas que ce soit un frein, faut que ce soit un accélérateur. Et donc pour moi, c'est ça qui va être extrêmement structurant parce qu'on sait que tout ce monde de l'IA, de l'IA générative est en train d'accélérer de façon exceptionnelle. Tout le monde n'est pas préparé. On a pris de l'avance. Ça, c'est un petit peu le moment cocorico au niveau de la France. Je trouve que la France est très bien positionnée sur ces thèmes-là. On voit des startups, Hugging Face, Mistral et bien d'autres qui se sont créés, qui délivrent de la valeur et parfois des partenariats stratégiques. Voilà. On doit accompagner au niveau de l'Europe, au niveau du réglementaire, tout ce mouvement-là sans le contraindre.
Merci beaucoup Rémi Trinto, directeur général de ServiceNow en France. Et merci Frédéric Ross qui est représenté Amadeus. Merci à tous les deux. Merci.